Bienvenue dans Le Débat, notre espace d'échange intellectuel. Imaginez un instant, le chef du parti au pouvoir s'enfuit à l'autre bout du pays et il emporte le sceau officiel du parti avec lui, tout ça dans le seul but d'empêcher son propre camp d'investir des candidats.
C'est un chaos fascinant. D'autant plus que le parti conservateur, le Sanori, qui était alors aux commandes, s'attendait à une victoire totalement écrasante.
Oui, certains analystes pariaient même sur une super majorité.
Exactement. Et pourtant, à 18h, la réalité mathématique frappe. Ils perdent leur majorité absolue face au parti d'opposition Minjo lors de ces élections législatives sud-coréennes du 13 avril 2016.
Alors, la question centrale aujourd'hui, c'est de savoir comment lire ce séisme historique. De mon point de vue, cet effondrement spectaculaire est fondamentalement le résultat de l'arrogance autodestructrice et des dérives autoritaires du pouvoir en place.
Eh bien, je défendrai la perspective inverse. Pour moi, le pouvoir ne s'est pas simplement, disons, suicidé par ses erreurs. Ce scrutin signe vraiment le triomphe d'une mobilisation chirurgicale d'une jeunesse désespérée qui a littéralement forcé le destin.
Pour bien comprendre ma position, il faut observer la verticalité absolue de la présidente Park Geun-hye. En fait, son gouvernement se croyait intouchable, ce qui a mené à une déconnexion fatale.
C'est indéniable, oui.
Le véritable point de rupture morale reste la gestion catastrophique du naufrage du ferry Séoul. On parle de 304 morts, de 7 heures d'absence présidentielle totalement inexpliquée et d'une répression glaciale des familles de victimes.
La dimension tragique de cet événement est évidente, certes, mais...
Mais l'hubris du pouvoir ne s'arrête pas là. Fort de leur prétendue invincibilité, les fidèles de la présidente ont orchestré une purge interne délirante juste avant le vote. Ils ont refusé d'investir des conservateurs critiques.
Comme Yoo Sang-min, par exemple ?
Exactement. Et c'est précisément ce qui a poussé le chef du parti à fuir vers Busan avec le fameux sceau officiel. Ce spectacle d'un pouvoir qui se déchire par pur excès de confiance a en fait achevé de détruire sa crédibilité.
Les forces à l'œuvre n'étaient pas politiciennes, elles étaient profondément socio-économiques.
C'est-à-dire ?
C'est l'étouffement quotidien d'une génération entière qui a renversé la table. C'était une question de survie. Cette jeunesse vit dans ce qu'elle appelle le Helje Zone. Une compétition scolaire impitoyable, un chômage endémique et une précarité généralisée face aux profits astronomiques des Chaebols, ces immenses conglomérats familiaux.
L'économie a pesé, bien sûr, mais...
Face à l'érosion de la classe moyenne, la seule réponse de l'État a été de vouloir faciliter les licenciements. C'est cette urgence vitale, pour le coup, et non les manigances de l'élite, qui a fait bondir le taux de participation à 58%.
Attendez, je vous avoue que je suis perplexe. Les chiffres ne collent pas du tout. L'opposition s'est présentée devant les électeurs en étant totalement fracturée. Han Chol-soo a fait scission pour fonder son propre mouvement.
C'est vrai, il a concentré ses forces sur le Jola.
Oui, qui est pourtant le baston historique de l'opposition libérale. Or, dans un système uninominal majoritaire à un tour, la mécanique est impitoyable. Si l'opposition divise ses voix entre deux candidats, ça offre mathématiquement la victoire au candidat du parti dominant.
En théorie, oui.
Comment une jeunesse soi-disant désorganisée aurait-elle pu vaincre cette loi mathématique ?
Je vois pourquoi vous pensez cela, mais permettez-moi de vous donner une autre perspective. Ce qui a transcendé cette division mortelle des voix, c'est l'idéologie de l'État.
L'idéologie de l'État ? Vraiment ?
Oui.
Quand le pouvoir tente d'imposer un manuel d'histoire unique rédigé par le gouvernement ou force l'adoption d'une loi antiterroriste liberticide malgré 9 jours de filibustère de l'opposition, ça réveille une peur profonde. C'est le rejet viscéral d'un retour à la dictature qui a poussé les citoyens à s'unir.
Je suis désolé, mais je n'y crois pas. Laissez-moi vous dire pourquoi. La simple colère morale, aussi légitime soit-elle, ne suffit pas à contourner l'obstacle mathématique de la division des voix dont vous venez de parler.
Alors comment ont-ils fait ?
Ce que les électeurs ont accompli, en réalité, c'est d'agir comme un algorithme collaboratif géant.
Un algorithme ? Vous voulez dire qu'ils ont contourné les partis ?
Tout à fait. Au lieu de suivre les consignes d'une opposition scindée, les citoyens ont coordonné un vote utile d'une précision chirurgicale. Sans aucun leader central, ils ont identifié quel candidat d'opposition avait le plus de chances de l'emporter dans chaque circonscription et ils ont massivement voté pour lui.
Ah oui, c'est fascinant.
ils ont fait tomber des forteresses conservatrices réputées imprenables, comme le quartier très riche de Ganyam. Et plus fort encore, ils ont brisé des décennies de loyauté régionale aveugle.
En faisant élire ma candidate de l'opposition à Daegu, la capitale historique du conservatisme.
Exactement.
Ils ont littéralement piraté la mécanique électorale de l'intérieur. C'est d'une maturité tactique incroyable. Et les conséquences institutionnelles ont été colossales. En perdant sa majorité, la présidence a perdu son bouclier parlementaire.
Et son immunité face au scandale.
Oui, elle ne pouvait plus étouffer les enquêtes sur la corruption et les liens douteux avec les Shaibols.
Ce qui nous amène à la conclusion logique. Cette brèche ouverte par les urnes au printemps est précisément ce qui a permis, en décembre, d'enclencher la procédure de destitution de Park Geun-hye.
En somme, cet événement historique illustre la collision très complexe entre un effondrement institutionnel tragicomique, d'un côté, et l'éveil tactique foudroyant d'une génération de l'autre.
C'est la preuve qu'un système perçu comme totalement verrouillé peut céder face à ceux qu'il pensait pouvoir ignorer.
Nous laissons le soin à nos auditeurs de méditer sur celle de ces deux dynamiques qui fut la plus déterminante. Merci de partager cet espace de réflexion avec nous et continuez d'analyser les mécanismes invisibles qui précèdent les grandes secousses politiques.